l'actrice sport Ramzy Boukian. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter, il est 6h. Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Et nous serons à Gaza avec ses habitants qui retrouvent un fils, un frère, un père dans les fosses communes découvertes au sein de deux hôpitaux. Au moins 340 corps selon les secouristes locaux. L'ONU, les Européens, les Américains demandent des comptes à Israël. En France, 2 millions de bouteilles de Perrier partent à la poubelle. L'un des captages dans le Gard est contaminé. Nouveau revers pour le groupe Nestlé, précision à suivre. Au sommaire aussi, le procès d'une secte à Paris et le récit édifiant du fils d'un adepte, et Venise qui devient aujourd'hui payante pour les touristes, une partie d'entre eux en tout cas.
France Inter. Il est l'un des visages les plus connus parmi les otages israéliens du Hamas.
Hersh Goldberg Pauline, 23 ans, apparaît dans une vidéo diffusée hier soir par l'organisation islamiste. Dans la foulée, des dizaines de manifestants se sont réunis devant la résidence du Premier ministre Netanyahou au cri de « Ramenez-les à la maison ». À Gaza, pendant ce temps, beaucoup de questions toujours autour de ces fosses communes découvertes dans deux hôpitaux de l'enclave. Après l'Union européenne et l'ONU, la Maison-Blanche demande à son tour à Israël une enquête fouillée et transparente. Notre correspondant Thibault Lefebvre a pu recueillir des témoignages directs grâce à l'aide sur place de Youssef Kilani.
Une femme est assise au sol. Devant elle, deux corps dans des sacs mortuaires blancs recouverts de fleurs. Elle porte un masque chirurgical et parle au téléphone à son père.
On a retrouvé la dépouille de mon frère Mounir. Que Dieu ait pitié de son âme. Viens papa et apporte du parfum.
La maman, éreintée, les yeux cernés, interrompt la conversation.
Je l'ai reconnue, c'est le cœur d'une mère qui parle.
La dépouille de Mounir a été retrouvée au milieu de plus de 300 cadavres autour de l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes. Depuis le retrait des troupes israéliennes de la ville le 7 avril, des dizaines de familles cherchent les corps de leurs proches. Le docteur Ahmed Moghrabi était dans l'établissement jusqu'au 15 février.
Pendant deux ou trois semaines, l'hôpital était en état de siège et les gens ont enterré les corps à l'intérieur de l'hôpital.
Les familles de victimes accusent aujourd'hui l'armée israélienne d'avoir déterré les cadavres pour effectuer des prélèvements ADN, puis de les avoir jetés dans des fosses communes. Dans un communiqué, l'état-major reconnaît avoir cherché des otages parmi les dépouilles, mais nie avoir déplacé les corps. Selon le Hamas, des cadavres ont été retrouvés pieds et mains liés. L'état hébreu dément.
Thibault Lefebvre à Jérusalem. Tandis qu'aux États-Unis, le mouvement des étudiants pro-palestiniens fait tache d'huile, parti de l'université new-yorkaise de Columbia. Il concerne désormais de nombreux campus, de Harvard à la Californie en passant par le Texas. En France, un rassemblement pro-palestinien hier soir à Sciences Po Paris. Une cinquantaine d'étudiants se sont réunis dans le calme, selon la direction, au sein du campus Saint-Thomas. Voilà qui signe un changement majeur dans la politique américaine à l'égard de l'Ukraine. Le nouveau plan d'aide à Kiev comprend l'envoi de missiles à longue portée, capables de transpercer les lignes ennemies à plus de 300 km. Washington vient de le confirmer. Jusque-là, Joe Biden était très réticent à livrer ce type d'armes.
En France, ce nouveau coup dur pour le groupe Nestlé.
Et sa branche eau minérale, déjà dans la tourmente. La marque Perrier a dû cesser l'exploitation de l'un de ses captages dans le Gard à la demande de la préfecture. Après la découverte de bactéries, Marie Dupin, 2 millions de bouteilles sont concernées.
Oui, 2 millions de bouteilles détruites et un puits désormais fermé dans l'usine Perrier du Gard. Cette annonce d'une contamination par des bactéries d'origine fécale intervient 3 semaines seulement après nos révélations sur une note adressée au gouvernement évoquant un niveau de confiance insuffisant pour assurer la qualité sanitaire des eaux minérales Nestlé. En cause, une contamination des ressources qui avait conduit l'entreprise à mettre en place des traitements interdits. La multinationale affirmait avoir retiré ces traitements, mais pouvoir malgré tout garantir la qualité de ces eaux. Les puits contaminés ayant été fermés ou détournés pour fabriquer des boissons gazeuses. Or, l'annonce de la destruction de 2 millions de bouteilles Perrier semble confirmer au contraire que des sources contaminées continuent d'être exploitées par Nestlé pour produire de l'eau minérale naturelle, censée pourtant être protégée de toute forme de pollution. Le ministère de la Santé n'a pas encore répondu à nos questions.
Et selon Nestlé, les bactéries retrouvées ces derniers jours sont liées aux fortes pluies qui sont tombées le mois dernier sur ce département du Gard. Situation un peu paradoxale aujourd'hui dans les aéroports. aéroports français. Le principal syndicat de contrôleurs aériens a bien levé son préavis de grève, mais trop tardivement pour reprogrammer les vols déjà annulés. Le trafic va donc rester très perturbé toute la journée. Orly le plus touché, 3/4 de suppression, 65% à Marseille, une grosse moitié à Roissy. On attend ce midi les chiffres du chômage du premier trimestre selon France Travail, première publication depuis la transformation de l'ex-Pôle emploi. L'occasion avec vous, Maxime Debs, d'un premier bilan de cette réforme, notamment sur l'accompagnement des allocataires du RSA qui sont désormais dans le giron de l'organisme.
Sur l'accompagnement des allocataires du RSA moyennant 15 heures d'activité qui a beaucoup fait parler, le dispositif est expérimenté dans de plus en plus de départements maintenant et les premiers résultats probants à écouter Paul Bazin, directeur général délégué de France Travail.
Ils étaient 18 en 2023, ils sont désormais 47 et on voit d'ores et déjà dans les 18 premiers des résultats. Pour les personnes qui ont eu 5 mois d'accompagnement, on avait 40% qui avaient trouvé un emploi à l'issue de ces 5 mois d'accompagnement et en emploi durable, donc CDD de plus de 6 mois ou CDI, c'était déjà 17%. Pour des personnes parfois pas très bien accompagnées pendant des années, et bien très vite, cet accompagnement intensif, il montre de premiers effets en emploi.
Constat partagé par les syndicats, toutefois un peu plus prudent.
Ça donne des résultats intéressants. Maintenant, quid de la généralisation qui se fera en 2025?
David Valaperta, la CFDT, dubitatif pour la suite à plus d'un titre, à l'heure où le gouvernement, par ailleurs, ne s'interdit pas de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs, ce qui risque de changer encore la lettre de mission des conseillers France Travail.
Pour nous, c'est clairement pas cohérent et pas compatible avec justement l'annonce qui avait été faite et l'objectif justement d'avoir un meilleur accompagnement. C'est quelque chose donc qui nous interroge en fait sur les conditions de mise en œuvre de France Travail demain.
Le tout dans un contexte d'économie que cherche à faire l'État, ça fait quand même beaucoup d'inconnus, estiment les syndicats.
L'Élysée s'en défend, mais pour les adversaires du président, il s'agit bien là d'une entrée en campagne à 6 semaines des élections européennes. Emmanuel Macron prononce ce matin un nouveau discours sur l'Europe à la Sorbonne, comme en septembre 2017. Le chef de l'État devrait dérouler une série de mesures nécessaires, selon lui, pour passer à l'Europe puissance, et cela au moment où son camp est à la peine dans les sondages.
France Inter 6h07, il raconte l'engrenage infernal de l'embrigadement.
Anciens adeptes et familles de victimes se succèdent à la barre du tribunal correctionnel de Paris au procès de la secte de la Grande Mutation. Son gourou est mort, mais 6 cadres du mouvement sont jugés pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. Car Charlotte Piret, l'idéologie de cette secte était cachée sous un vernis pseudo-scientifique.
Pendant 7 ans, Dominique a été adepte de la Grande Mutation, fasciné par son gourou, ancien chercheur au CNRS, qui expliquait son handicap dû à un accident de moto par le fait qu'il avait retourné le canal cosmique. Dans ce mouvement où le monde était divisé en deux races et toute décision prise en fonction d'un pendule, Dominique a même tenté d'embarquer son fils Robin, dans un premier temps mis en confiance par le statut des cadres de la Grande Mutation.
En tout cas, ils se présentaient comme des scientifiques, des chercheurs. Et il y a une période de séduction. Ces gens-là nous disent qu'on a quelque chose de spécial, qu'on est à part, qu'on est des êtres de lumière, que sais-je encore. On est mis dans un premier temps en valeur. Et progressivement, on nous enlève tout esprit critique, en fait.
Et cette mécanique, Victor l'a vécue d'encore plus près en assistant à plusieurs réunions collectives alors qu'il était adolescent.
Quand il y a des personnes qui posaient des questions, on leur faisait comprendre par des rires un peu gentils, faussement gentils, qu'ils comprendront, mais plus tard. C'est la pire chose, en fait, pour eux. C'est quelqu'un qui fait preuve d'esprit critique, donc ils tournent ça en dérision, de manière à ce qu'il y ait une telle pression dans le groupe que personne n'a envie de se distancier des autres, d'être à la ramasse et de perdre le message, en fait.
Dans la salle, les prévenus aux longs cheveux en guise d'antenne cosmique, selon eux, ces cadres du mouvement sont restés impassibles lors des témoignages de victimes. Les premiers doivent s'expliquer à la barre cet après-midi.
Un nouveau couvre-feu municipal pour les mineurs après Pointe-à-Pitre, Béziers et Nice. C'est la commune des Pennes-Mirabeau près de Marseille qui va l'imposer dès ce soir aux enfants de moins de 13 ans.
En Italie, Venise devient aujourd'hui la première ville touristique au monde à imposer un ticket d'entrée à ses visiteurs.
Ouais, un peu comme dans un parc d'attractions, mais là à l'échelle de toute une ville, la cité des Doges désormais payante, 5 euros pour les visiteurs à la journée pour tenter, Bruno Duvic, d'endiguer le surtourisme.
La taxe sera due jusqu'à 16 heures. Sont exemptés les 260 000 résidents de toute la région Vénétie. C'est trop pour Matteo Secchi de l'association d'habitants venetia.com.
Ce sont eux qui font augmenter de manière disproportionnée le nombre de personnes certains jours. On se fiche du monde.
Vous êtes exempté si vous dormez à Venise. L'hôtel peut vous fournir la preuve, un QR code. Bruno tient un établissement dans la lagune.
C'est une perte de temps. Ça ne règle rien. Il faudrait un nombre limite de personnes en plus de ces 5 euros. C'est juste pour faire rentrer de l'argent.
La mairie jure que le coût de la mesure est supérieur aux 700 000 euros attendus et non à un numerus clausus, on ne ferme pas la ville. C'est une première étape, dit Michele Zuin, adjoint aux finances.
Nous voulons savoir combien de personnes exactement sont dans la ville. Cela servira pour la deuxième étape en 2025. Il y aura un seuil de visiteurs. En dessous, vous payez moins 2 ou 3 euros. Au-dessus, vous payez 10 euros.
Les contrôles seront légers. L'amende commence à 60 euros.
Et si vous êtes concerné, toutes les informations pour acheter le QR code sur cda.ve.it. Voilà pour votre prochain week-end en amoureux, Mathilde.
Je vous remercie Alexis Morel et bonjour Cédric Guillou.
Bonjour.
Dans votre esprit sport olympique, le surfeur marocain Ramzi Boukiam qui a démocratisé cette discipline dans son pays.
Oui, c'est une véritable icône du surf en Afrique et surtout chez lui au Maroc. C'est vrai qu'avant lui, les Marocains n'avaient jamais vu de surfeur dans leur pays de ce niveau. Alors Ramzi Boukiam, il sera de l'aventure parisienne cet été. Ce sera à 30 ans sa deuxième Olympiade en surf donc, vous le disiez, c'est un sport qui permet, selon lui, d'unir tout le monde, quelles que soient les classes sociales.
Comment en est-il arrivé là ?
Alors, il s'est mis à l'eau très jeune. Il est né en septembre 1993 aux Pays-Bas. Et oui, sa mère était néerlandaise. Son père, marocain, il a grandi à Agadir. Il a passé toute son enfance au bord de l'océan. Il est tombé amoureux de ce sport. Il l'a raconté à Média TV Afrique.
Ça a commencé sur les plages d'Agadir, quand j'étais tout petit, à l'âge de 8 ans, 8 ans et demi. Mon père allait tout le temps à la plage pour pêcher. Il nous emmenait, moi et mon frère, du coup, tout le temps avec lui. Mon frère surfait un petit peu avant moi. Moi, je faisais un peu de bodyboard. Je me mettais déjà debout sur le bodyboard. Je m'amusais toute la journée dans l'eau. Et mon frère, un jour, m'a dit « Essaye le surf ». J'ai essayé. J'ai accroché et c'est parti crescendo.
Ramzi Boukiam qui dit aussi dans The New Arab « Quand j'ai eu ma première planche, j'ai carrément dormi toute la nuit avec et même toutes mes premières nuits, j'étais complètement surexcité. »
Et aujourd'hui, il est professionnel.
Oui, il a franchi le cap il y a plus de 10 ans et le 1er décembre 2022, il a même rejoint le circuit Elite, événement qu'il avait célébré en surfant avec le drapeau marocain sur le dos et nul doute, Mathilde, qu'il va faire pareil s'il parvient à décrocher cet été une médaille olympique à Tahiti et sur son spot mythique de Teahupo'o.
Cédric Guillou pour l'Esprit Sport.
France Inter, 10h, Ali Rebbi.
Ce jeudi, coup de projecteur sur les haies naturelles, indispensables à notre biodiversité. Elles sont aussi poétiques et esthétiques en participant à notre bien-être.
Grand bien vous fasse, tous les jours à 10h sur Inter. France Inter, partenaire de l'agenda culturel des Jeux 2024, du Parisien aujourd'hui en France week-end. Calendrier et infos pratiques des temps forts en Île-de-France et en région. Exposition, art de la rue, danse, littérature, musique, cinéma, théâtre. 32 pages pour profiter au mieux des événements culturels et artistiques autour des Jeux. L'agenda culturel des Jeux 2024, un supplément Le Parisien aujourd'hui en France week-end, à lire dès demain avec votre quotidien. Un partenariat France Inter.
Voici le reportage Grand Angle à 6h13.
France Inter, le 5-7.
Emmanuel Macron au secours de sa majorité à un mois et demi des élections européennes. Le président se lance dans la bataille et va prononcer aujourd'hui un grand discours sur l'Europe, alors que les sondages ne sont pas favorables à son camp. A l'inverse, les partis européens d'extrême droite et nationalistes, qui sont aujourd'hui divisés en deux groupes, gagneraient des députés au Parlement de Strasbourg. Si ça se confirme, ils comptent bien en profiter pour peser davantage, Élodie Forêt.
Pour accéder au bureau du RN, un dédale de couloir.
Au bout du bout, ironise ce collaborateur, comme si le cordon sanitaire se matérialisait sous nos yeux.
Un cordon véritable qui jusque-là a empêché le parti français et ses alliés d'obtenir des postes qui comptent. Jean-Paul Garot, président de la délégation RN.
Moi, j'avais demandé d'entrer la création d'une commission d'enquête spéciale sur le terrorisme. Finalement, nos adversaires se sont ligués entre eux pour voter contre systématiquement. Parce que c'est nous.
Réunis pour la dernière fois à Strasbourg, de nombreux alliés du RN rêvent donc désormais de faire tomber les murs. Vieille arlésienne, l'idée d'un grand groupe nationaliste fait son retour. Gerolf Hannemans, eurodéputé flamand du Vlaams Belang.
On est tous d'accord de former un nouveau groupe plus grand qui aurait beaucoup plus d'influence. Nous sommes ouverts à tout.
Un seul grand groupe nationaliste loin d'être gagné tant
dans le bloc est hétérogène, divisé sur la Russie, sur l'OTAN. Le RN notamment n'a pas toujours bonne presse. Leur logique, c'est moins ils en font, moins ils font de faux pas, confie une source interne du groupe ID. Dans l'autre groupe, ECR, construit aujourd'hui autour de l'italienne Giorgia Meloni, est considéré comme plus respectable au sein des institutions. Les réticences sont donc nombreuses. L'eurodéputé belge ECR, Assita Kanko, juge sévèrement le RN et consorts.
Il y a un groupe politique en particulier qui ne fout rien. Et moi, je suis rapporteur de la loi antiterrorisme. Je ne les ai pas vus une seule fois pendant les négociations. Il ne faut pas se considérer comme parlementaire uniquement quand il y a une caméra ou un micro. Il s'agit d'aller dans les coulisses, de transpirer. C'est ça le travail parlementaire, c'est pas toujours glamour.
Mais dans un parlement où tous ces partis vont certainement progresser, qu'ils s'accordent ou non, leur influence va grandir, soupire un député de gauche, qui s'emploie d'ores et déjà à prévenir les lobbies. Vous ne pourrez plus vous boucher le nez, il faudra parler à l'extrême droite.
Élodie Forêt du service politique de France Inter, c'était le reportage Grand Angle. On passe maintenant au grand titre de la presse. Bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour.
Vous nous donnez les unes.
Avec la une de l'Humanité, vous voyez un jeune militaire au regard profond. Il est beau comme l'espérance, il a un œillet au bout de son fusil. Oui, témoignage sous les œillets de la révolution portugaise d'il y a 50 ans. On envoie un autre militaire portugais d'il y a 50 ans à la une de Libé. Franchement, il est moins beau, je préfère celui de l'UMA. À la une de la Croix, Macron et l'Europe, acte 2, on en a parlé. À la une de l'Opinion, l'Europe, dernier combat de Macron, c'est sépulcral. Peut-on se baigner deux fois dans la même eau, se demande l'Opinion, puisque Macron réédite l'opération discours à la Sorbonne, européenne, Macron entre en campagne pour sauver son camp. Tout ceci est dramatique. Ceci était la une du Figaro. Un sourire à la une du Nouvel Obs, Les Vérités d'Omar Sy, un livre sort auquel il a participé, qui lui est consacré. Il raconte comment il a gardé la France, partant aux États-Unis pour que ses enfants puissent connaître une vie normale, plein d'autres choses. À la une du Point, une femme, une grande dame que nous recevrons tout à l'heure à 8h20, Elisabeth Badinter. Titre du Point, femme, homme, la défiance. Le sujet est passionnant. Les hommes et les femmes jeunes n'ont plus les mêmes opinion politique. Allez lire cela. À la une de Sud-Ouest, ça parle de rugby. Les filles ne vivent pas de leur sport. Et oui, ça fait partie de la défiance. À la une du Berry républicain, c'est le printemps. On parle de Françoise Hardy, la merveilleuse que l'on a célébrée hier en chanson et qui n'aime pas, dit-elle, notamment à son fils, qu'on la célèbre avant sa mort. Oui, mais on l'aime, hein, c'est ainsi.
Dans votre choix, Claude, ce matin, un chien.
Un chien qui a aboyé quand le technicien de SFR est entré dans la maison. Alors, la cliente a dit à Sofiane, désolé, mon chien n'aime pas les Arabes, ne le prenez pas mal. Chaque fois qu'il y a un Arabe, il réagit comme ça. Et quand il a raconté cela à son supérieur, l'intervention effectuée, le chef a dit à Sofiane qu'il débutait et qu'il devait se taire et travailler. Et comme effectivement, il était fraîchement arrivé en France, bienvenue chez nous, Sofiane s'est tue. Mais désormais, il parle, lui et d'autres techniciens télécoms qui travaillent en sous-traitant pour SFR, pour Orange ou pour Free, qui sont d'origine malienne ou sénégalaise ou algérienne ou marocaine et qui doivent accumuler les interventions pour vivre et donc supporter le racisme qui flotte dans notre pays. Ils racontent leurs avanies sur un groupe WhatsApp, autrefois dédié à des dossiers techniques, mais qui est devenu leur exutoire, et Street Press nous le raconte. Il y a le client qui crie « Vous les techniciens étrangers, vous êtes des feignants, j'en ai marre, la porte c'est par ici, casse-toi » Le client qui vous suit dans son domicile et qui vous enferme jusqu'à ce que l'intervention soit finie, si vous étiez un voleur. La cliente qui vous dit au téléphone « Tu ne parles même pas correctement français, sale blédard !» Le client qui explique à l'homme qui vient de réparer sa ligne que les Maghrébins devraient mieux s'intégrer. La cliente, moins courtoise, qui refuse de serrer la main de Sofiane, oui encore lui, celui qui avait rencontré un chien à ses débuts, et qui lui lance qu'il prend le pain des Français. Ce coup-là, Sofiane n'a pas assuré l'intervention, il a rapporté à nouveau l'incident, il a pensé que la cliente serait mise sur liste noire. En fait, elle a été reportée sur le planning d'un collègue malgache, elle n'était pas contente. Est-ce une consolation ?
Claude Askolovitch, vous revenez à 9h moins le quart pour une nouvelle lecture des journaux. Il est 6h18, dernière étape dans le Cotentin dans Esprit d'Initiative. Bonjour Cécile Bidot.
Bonjour Mathilde.
Vous nous emmenez à Coutances à la rencontre de la cantine des Patounes.
Oui, c'est une association que vous trouverez dans la Maison de la Solidarité, les jours de distribution des colis alimentaires des Restos du Cœur ou du Secours Populaire. La nourriture de la cantine des Patounes est à destination des chiens et des chats des bénéficiaires.
Hop, et c'est 2 euros si vous avez. Impeccable, une petite signature pour moi et c'est bon. Impeccable.
Merci. 2 euros de participation pour repartir avec l'équivalent d'un repas par jour pendant un mois.
Donc là, normalement, c'est bon.
Donc là, vous prenez des pâtés.
Des pâtés et un sac de croquettes.
Ouais, ah bah, on va être content pour le matin. Impeccable.
Là, il y en aurait là.
Ah oui, elle aime bien ça le matin.
Je peux vous demander votre prénom ?
Oran.
Vous avez un chien ?
Oui, elle s'appelle Mia.
pas parce que là on a une difficulté financière qu'on doit abandonner nos animaux ou quoi. Hein. Quitte à moi, ce que je me nourrisse pas un repas et que ça aille pour ma chaîne, ça me dérangerait pas.
Donc, bon bah, on va vous laisser aller nourrir Mia. Alors.
Ouais, bon, ça va, déjà la gamelle pleine. Bon bah, très bien. Bon bah, merci beaucoup.
La cantine des Patounes fonctionne grâce à des dons de particuliers, mais aussi et surtout d'industriels et de grandes surfaces. Elle a été créée il y a 2 ans par Corinne Gester.
Ah oui, mais ça, c'est notre testeur qualité, ça.
D'accord, ok. Vous avez un chat dans la voiture qui teste ?
Oui, oui, il teste les produits. Il s'appelle Gasoil et à chaque fois qu'on est là, il est là. Il arrive en courant.
La présidente de la cantine des Patounes constate une augmentation de plus de 30% des demandes depuis le début de l'année.
Ça coûte très très cher aujourd'hui, en plus de ça, avec les augmentations et les pensions qui n'augmentent pas, évidemment, c'est très difficile. On a des personnes qui, quand on a créé cette action, nous est tombée dans les bras en pleurant. Tellement ils étaient heureux que leur animal pouvait avoir à manger tous les jours. C'était très difficile pour eux.
Je vais vous demander votre prénom.
Joël.
Et vous avez quoi, un chien, un chat ?
Les deux, Mini et Roxane.
Et alors, le fait de pouvoir venir avec, payer 2 euros et d'avoir un mois de repas, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Bah, beaucoup de choses, parce que vu le budget qu'on a par mois, on n'a pas grand-chose. Des aliments pour chien et chat, ça coûte assez cher. Donc ça nous permet d'acheter autre chose pour les enfants, tout ça.
La cantine des Patounes compte 260 adhérents qui viennent régulièrement récupérer de la nourriture pour leurs animaux. 15 bénévoles les accompagnent, comme Charlotte Dufour, la secrétaire de l'association.
Si on aide les animaux des gens démunis, ça va leur donner un petit coup de souffle, quoi. Enfin, c'est un soutien psychologique, l'animal. Hein. S'ils ont déjà leurs problèmes de précarité et qu'en plus, ils perdent leurs animaux, bah là, on a tout mauvais, quoi. Donc, faut soutenir tout le monde. Les chiens, les chats et les êtres humains.
La cantine des Patounes finance aussi la stérilisation des chiens et des chats.
Et c'est ainsi que se referme notre semaine d'initiative dans la Manche. Cécile Bideau, où serons-nous lundi prochain ?
Petite escapade à Toulouse.
France Inter. Mathilde Munoz. 5-7.
Il est 6h21, c'est l'une des maladies les plus mortelles à travers la planète et elle est en recrudescence. Le paludisme, également appelé malaria, une maladie transmise par les piqûres de moustiques. Mais il y a un espoir avec l'arrivée récente de vaccins. Bonjour Lucille Grosjean.
Bonjour.
Vous êtes directrice du plaidoyer de l'UNICEF en France. C'est une maladie qui touche essentiellement les enfants, d'où votre présence dans ce studio en cette journée mondiale de lutte contre le paludisme. Presque chaque minute, un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme dans le monde, la plupart en Afrique. C'est là qu'elle est la plus répandue ?
Tout à fait. 95% des cas de paludisme se trouvent en Afrique et c'est effectivement une des principales causes de décès des enfants notamment.
Et aujourd'hui, il y a combien d'enfants qui meurent dans le monde ?
Il y a un demi-million d'enfants qui meurent chaque année du paludisme. Un par minute à peu près, c'est absolument énorme.
Et pourquoi cette recrudescence ces dernières années ?
La recrudescence, elle est beaucoup due au dysfonctionnement lié au Covid de tous les systèmes de santé, notamment ces grandes campagnes aussi de vaccination, de prévention qui avaient normalement lieu et qui ont été complètement désorganisées pendant le Covid. On peut dire aussi les conflits, en fait, tout ce qui va désorganiser les services de santé, donc toutes les zones de conflit, et il y a un peu une multiplication des conflits en ce moment, c'est aussi dans les causes de la recrudescence.
Et c'est pour ça notamment, j'ai vu qu'au Venezuela, hein, le paludisme repart alors qu'il avait quasiment disparu dans les années 70, lié, voilà, juste pour dire une petite parenthèse, pour dire que c'est pas que en Afrique, essentiellement ouais. En Afrique, mais qu'il y en a un petit peu ailleurs aussi.
Tout à fait, tout à fait. Et il y a deux dernières causalités qui sont aussi les changements climatiques, parce qu'avec la hausse des températures, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles zones qui se retrouvent davantage infestées de moustiques, ou parfois c'est le manque d'investissement dans les services de santé, les crises économiques, etc., qui peuvent aussi avoir des impacts sur la reprise du paludisme.
Quels sont les symptômes ?
Les symptômes, c'est des fortes fièvres, beaucoup de courbatures, etc. Et ça peut aller jusqu'à jusqu'à la mort. Hein. Mm-hmm. Et souvent, c'est des cas d'hospitalisation. On doit aller jusqu'à l'hospitalisation en cas de paludisme. Donc, c'est une maladie qui est très grave.
Est-ce qu'on peut en guérir définitivement ? Ou est-ce qu'elle revient de manière cyclique ?
Elle revient de manière cyclique. Effectivement, aujourd'hui, quand on l'attrape une fois, en gros, on va le redéclencher. Parfois pas de manière régulière, mais on le redéclenche en général. Ouais.
Mais il y a des médicaments, des traitements justement pour ne pas en mourir ?
C'est tout à fait. Alors peut-être les gens qui ont voyagé s'en souviennent, mais on prend souvent des antipaludéens quand on part en voyage, par exemple en Afrique, qui permet de...
Ça, c'est en préventif.
C'est en préventif et ça permet, si on la contracte, d'avoir que la maladie soit moins forte, globalement. Après, il y a bien sûr tout un tas de choses qui permettent de prévenir un petit peu la maladie, les moustiquaires, etc.
Mais il y a surtout ces deux vaccins qui ont vu le jour très récemment, il y a quelques années, et qui commencent seulement à être déployés. Hein, ça, par exemple, au Cameroun, la campagne de vaccination a débuté seulement fin janvier. Ils sont efficaces contre toutes les formes de paludisme ?
Ils sont efficaces contre toutes les formes de paludisme, et les endroits où ça a été testé, les zones où ça a été testé en phase pilote, ça a permis, c'est ça le succès est vraiment important, de réduire la mortalité infantile de 13% très, très rapidement. Donc c'est vraiment un vaccin qui est efficace, qui est un peu long à mettre en place parce qu'il faut 4 doses, etc., mais qui est extrêmement efficace.
Alors justement, moi j'aimerais que vous m'expliquiez, parce qu'en plus vous revenez de République démocratique du Congo, hein, vous avez l'habitude du terrain, comment se passe cette vaccination, qui la gère, qui achète les vaccins, qui s'occupe de la logistique pour les acheminer, qui les administre ? Expliquez-moi tout.
Alors déjà, c'est effectivement des grosses opérations de logistique, hein, parce que l'enjeu, c'est que ces vaccins, ils arrivent effectivement, une fois qu'ils arrivent dans le pays, qu'ils arrivent à se déployer jusqu'au moindre petit village. L'UNICEF, c'est l'organisation qui est le plus gros acheteur mondial de vaccins. On en achète 2 milliards de doses chaque année.
Donc c'est vous, c'est pas les États qui les achètent?
Alors ça dépend, c'est aussi les États. Mais il y a une alliance mondiale pour le vaccin qui s'appelle Gavi, qui justement, c'est en gros, passe des grands acteurs avec des grands achats avec les grandes compagnies de fabrication de vaccins pour en acheter beaucoup, beaucoup. Et comme ça, c'est moins cher. Et on l'achète en prévision pour les États, etc. Et après, il s'agit du coup de les amener. Bien sûr que les personnels de santé soient formés à l'utilisation de ces vaccins, etc. Il y a tous les enjeux de chaîne du froid préserver pour que ces vaccins restent fonctionnels. Et d'arriver à les déployer jusque dans le moindre petit centre de santé. Et souvent, on travaille même à l'échelle des villages avec ce qu'on appelle des agents de santé communautaires, donc vraiment des gens dans le village qui vont permettre de rassembler tout le monde, de faire la
vous
publicité,
avez tout un
on va
réseau,
dire,
des relais exactement. Partout.
Et c'est vraiment ça qui fait, c'est cette alliance entre à la fois les États, les organisations internationales comme l'UNICEF, les villageois, les centres de santé, le personnel de santé, qui fait qu'on arrive à déployer ces très grandes campagnes de vaccination, parce qu'on parle bien sûr de millions et de millions de personnes qu'il s'agit de vacciner.
Et il y a une campagne de sensibilisation auprès de la population avant de vacciner. Comment ça se passe? Il y a une réticence ou pas?
Il peut y avoir des réticences. C'est aussi beaucoup expliqué parce que ça peut être parfois, selon les vaccins, il y a des périodes pour se faire vacciner. Aussi expliqué que justement, parfois, si on prend l'exemple du vaccin contre le paludisme, qui a plusieurs doses à faire. Pour le paludisme, c'est tous les 6 mois, il y a 4 doses à faire, des rappels au début. Donc expliquer tout ce système-là, expliquer que ça marche effectivement, pour que tout le monde comprenne et voit l'intérêt.
Et est-ce qu'il y a suffisamment de vaccins? Là, on en est au début, mais est-ce que la production elle est suffisamment intense pour fournir tous les pays qui en ont besoin?
Alors, pas encore, parce que justement, on en est au tout début. Le deuxième vaccin vient à peine d'être approuvé. Donc, on est vraiment là dans le début du déploiement. Ça commence effectivement au Cameroun. Il y a une douzaine de pays africains qui, ça y est, sont en train de préparer justement tout leur plan de déploiement, etc. Mais aujourd'hui, il y a 18 millions de doses qui ont commencé à être envoyées. Mais le but, c'est d'arriver, il faut que d'ici 4-5 ans, le but, c'est d'arriver à 100 millions de doses qui soient déployées. Donc, c'est vraiment une montée en puissance progressive.
Et vous pensez qu'un jour, il y aura plus de paludisme sur la planète?
Eh ben, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Et c'est là où la vaccination, c'est une des plus grandes réalisations de l'humanité, quand même. Qui, au global, tous les vaccins ont permis de réduire la mortalité infantile de plus de 40%. Donc, c'est des vrais progrès de l'humanité dont on peut se réjouir. Et on peut espérer, effectivement, que le paludisme peut-être disparaîtra ou en tout cas sera beaucoup moins mortel.
Et ben on va finir sur cette note d'espoir. Merci Lucile Grosjean, directrice du plaidoyer de l'UNICEF en France.
C'est si bon.
Charolaise.
Partenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf.
C'est si bon.
Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui.
France Inter.
Première radio de France.
Il est 6h28.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Marie-Pierre Planchon.
Bonjour Mathilde.
Encore des pluies.
Eh oui, on est toujours cerné par les dépressions qui rentrent par le nord-est ou par le sud-ouest et des pluies remontent dès ce matin de l'Aquitaine jusqu'au sud de la région centre, s'étendant jusqu'à la région toulousaine et au massif central où elles vont se transformer en neige au-dessus de 1000 mètres. Et en journée, la zone pluvieuse finira par concerner tout le centre Val-de-Loire et l'Occitanie. l'Occitanie en s'étirant jusqu'à la vallée du Rhône et la Bourgogne, en donnant de la neige sur les Pyrénées à 1500 mètres. Et puis dans le même temps, on a quelques averses qui se produisent dès ce matin sur les côtes de Manche et près des frontières du Nord-Est, neigeuses d'ailleurs sur les Vosges des 600 mètres. Et dans l'après-midi, ces averses continueront à arroser la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, au Grand Est, ailleurs sur l'Île-de-France, la Franche-Comté, les Alpes et le pourtour méditerranéen. Ce sera une alternance de nuages, d'éclaircies qui seront plus belles sur les Alpes et on attend quelques ondées cet après-midi sur les Alpes du Sud et la Corse.
Et c'est le dernier jour des gelées.
Oui, on croise les doigts, Oui. Il va faire plus chaud demain. Donc, moins 1 aujourd'hui, vous avez vers Dijon, vous réveillez avec aussi moins 1 vers Orléans, un petit 0 vers Reims, pas plus de 0 aussi à Caen, 1 degré à Mans, dans l'Auxerre, 3 à Metz, il fait 4 à Guéret, vous réveillez avec 5 à Paris, à Saint-Giron, pas plus de 6 à Ajaccio, 7 à Brest et 10 à Toulon. Et cet après-midi, on sera encore en dessous des normales de saison, malgré une légère hausse. On aura une moyenne de 13 degrés au nord et 16 au sud.
Marie-Pierre Planchon, France Inter, 6h30. Le journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, des missiles à longue portée, 300 km, livrés par les États-Unis à l'armée ukrainienne, outils stratégiques face aux Russes, explication dans un instant. Ce matin, on parle aussi du discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe tout à l'heure, comme une entrée en campagne, de Duralex en redressement judiciaire pour la quatrième fois en 20 ans, de la fin des récompenses de TikTok Lite en Europe, on va entendre l'avis de ses jeunes utilisateurs, et puis du PSG qui repousse la fête. Pas encore champion de la saison de Ligue 1, mais ça ne saurait tarder.
France Inter.
61 milliards de dollars pour l'Ukraine et des missiles, pas n'importe lesquels. Les États-Unis annoncent la livraison d'attaques MS, des missiles à longue portée. Les premiers sont déjà arrivés discrètement il y a quelques jours. Un pas de plus franchi dans l'aide militaire à l'Ukraine. Jusqu'ici, les Américains s'y refusaient, Étienne Monin. Et c'est peut-être un tournant dans la guerre.
Cette arme était demandée avec insistance par les Ukrainiens. Elle peut être déterminante. Elle devrait permettre à l'armée de frapper les bases arrières russe. La portée est de 300 km. Une première version bridée à 165 km avait été livrée. Avec cette nouvelle version, les Ukrainiens peuvent notamment espérer toucher le pont stratégique de Kerch qui relie la Crimée au territoire de Russie. C'est un changement majeur dans la politique américaine. Jusqu'à présent, Joe Biden s'était opposé à l'envoi de ce type d'armes, mais l'utilisation répétée par Moscou de missiles balistiques et le ciblage ces derniers jours des infrastructures critiques en Ukraine ont convaincu les Américains qu'il fallait rééquilibrer les forces. Un premier lot a déjà été livré la semaine dernière. Le président Biden a approuvé secrètement la livraison de 100 missiles longue portée il y a 2 mois d'après le New York Times. 2 d'entre eux ont déjà servi. Ils ont visé les forces russes en Crimée et dans le sud de l'Ukraine.
Étienne Monin, l'Ukraine qui fait tout décidément pour faire rentrer les hommes en âge de combattre. Kiev annonce que plus aucun passeport ne sera délivré à l'étranger à ceux qui ont entre 18 et 60 ans, la dernière possibilité qui leur reste, c'est d'obtenir une carte d'identité pour rentrer au pays. Sur la Russie, Emmanuel Macron a signé une faillite stratégique. Angle d'attaque de Raphaël Glucksmann hier soir en meeting à Strasbourg, tête de la liste du Parti Socialiste aux Européennes. Il a critiqué la volonté d'alliance entre l'Europe et la Russie pour laquelle Emmanuel Macron avait plaidé en 2019. Le président lui répondra-t-il aujourd'hui dans son grand discours sur l'Europe à la Sorbonne, à un mois et demi de l'élection, le président entre en campagne.
Duralex et ses verres numérotés de nouveau au redressement judiciaire.
Et c'est donc la quatrième fois en 20 ans pour l'usine historique de la marque à la Chapelle Saint-Mémin dans le Loiret. Une nouvelle phase d'incertitude commence pour les 230 salariés, Marie Dorset.
Tout ce que savent les salariés de Duralex, c'est qu'ils vont continuer à travailler au moins jusqu'à la prochaine audience fixée le 5 juin. D'ici là, les administrateurs nommés par le tribunal vont visiter l'usine et tenter d'évaluer au mieux la situation. François Dufrasne, représentant CGT.
Un état des lieux va être fait. Le point sera fait le 5 juin. Aujourd'hui, on ne peut pas en dire plus.
Pas même sur le montant des dettes de Duralex. Aucune communication sur la situation financière de l'entreprise n'a été faite. Ce quatrième redressement judiciaire depuis 2008, c'est un coup dur, mais le syndicaliste veut garder espoir.
Comme d'habitude, on tombe de haut. Déjà, on est maintenu. C'est le principal. Mais on ne baisse pas les bras, on y croit.
Pour lui, la verrerie historique a encore de l'avenir.
Si derrière, il y a des fonds qui sont mis, si on a un
industriel qui arrive avec un bon projet, oui, l'usine peut tourner. Il n'y a que ça qui manque, le reste on l'a.
Mais qui de sérieux pour reprendre? C'est bien la question que se posent les salariés. Michael Ramos travaille depuis 29 ans sur le site de la Chapelle Saint-Mesmin. Il a vécu les trois derniers redressements judiciaires. Difficile de rester optimiste.
On va avoir le sentiment que ça va recommencer à un moment donné, dans un futur proche. On fait, nous, les salariés, que subir en fin de compte ce qui se passe actuellement, quoi.
Dans un communiqué, la préfecture assure que si une offre de reprise solide émerge, l'État sera prêt à l'accompagner.
Marie d'Orsay, France Bleu, Orléans. Au moins 2 millions de bouteilles de Perrier détruites contenant des bulles, c'est normal, mais aussi de la matière fécale et des germes. L'un des puits de Perrier dans son usine du Gard est contaminé. 12 Allemands et 2 Américains arrêtés dimanche à Thann, en Alsace, soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau pédocriminel. Ils s'étaient échangés, Antoine Ballandra, des milliers d'images pédopornographiques.
Les 14 suspects ont tous été interpellés alors qu'ils avaient loué des chambres dans un hôtel de Thann. Les policiers allemands ont aussi perquisitionné dans le même temps leur domicile, les bureaux de ces suspects. Plus de 10 000 éléments de preuve ont ainsi été découverts. Des pièces entières permettaient de stocker les supports numériques avec les photos pédopornographiques. La fouille de tablettes, d'ordinateurs portables et de smartphones a par ailleurs permis de confirmer les soupçons. Le matériel informatique va maintenant être expertisé en détail. La police allemande évoque un travail qui sera long et fastidieux, dit-elle, tant le volume de données est important. En garde à vue, les suspects originaires des quatre coins de l'Allemagne ont pour certains partiellement reconnu les faits. Ils ont ensuite été tous relâchés. Cette vaste enquête a été déclenchée dès le mois de décembre. Elle a mobilisé plus de 200 policiers allemands et une centaine de gendarmes français.
Antoine Ballandra, France Bleu, Alsace. En Espagne, le Premier ministre dira lundi s'il démissionne. Pedro Sanchez se laisse le temps de la réflexion après l'ouverture d'une enquête contre sa femme pour trafic d'influence et corruption. Il dénonce une campagne de harcèlement contre son épouse. La plainte émane d'un collectif d'extrême droite. Son nouveau service était vu comme le diable des réseaux sociaux. TikTok supprime les récompenses de TikTok Lite, ces bons d'achat offerts en échange du temps passé devant l'écran. L'application chinoise devance l'interdiction de Bruxelles. Nos enfants ne sont pas des cobayes pour les réseaux sociaux, disait le commissaire européen Thierry Breton. Reportage avec des utilisateurs de TikTok Lite à Lyon, signé Christophe Vincent.
Moins d'un mois après son apparition discrète, la fonction récompense est retirée. Peu d'utilisateurs l'ont adoptée, mais Charlotte est déjà accro.
J'utilise presque plus que TikTok normal. J'aime bien faire ça. Plus tu passes d'heures, plus tu gagnes d'argent, même si vraiment c'est très peu. C'est des petits gains, 2-3 euros, mais il faut passer vraiment toute la journée dessus. J'ai vraiment un but, je gagne de l'argent du coup.
Ça sert à rien et c'est une perte de temps. Et il y a des gens qui dorment pas, qui deviennent addicts. Ça marque vraiment quelque chose dans le cerveau. Les gens, ils deviennent obsédés par TikTok.
Les offres que tu as au final sont pas aussi intéressantes que ça par rapport au temps que tu passes sur l'application, quoi.
Psychologue à l'association Addiction France, Yann Calandra compare ses récompenses au jeu des casinos.
Plus on passe du temps sur l'écran, plus on est une valeur marchande. Dans cette société quand même où tout va vite, qui est assez anxiogène, il ne faut pas s'étonner de voir ces applications être très très florissantes parce qu'elles vont proposer de la récompense là où il y a du stress et le lien en neurobiologie a été très établi entre les deux systèmes. On est quand même sur des mécaniques addictives qui commencent à faire du dégât, on commence à le voir en consultation.
TikTok se dit constructif pour répondre aux préoccupations soulevées. En clair, la plateforme chinoise ne renonce pas. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Pas de grève des contrôleurs aériens finalement, mais une gigantesque pagaille tout de même dans le ciel français et européen où les plans de vol n'ont pas eu le temps de changer. Trois quarts des décollages et atterrissages supprimés à Orly, nous y serons dans le journal de 7h. Plus de la moitié à Roissy, à Marseille, 45% ailleurs en France. Le survol du pays sera aussi perturbé, 2000 vols supprimés en Europe. Le PSG va devoir attendre. Monaco a retardé son sacre en battant Lille 1-0. Les Parisiens auraient sinon été champions dès hier soir, après leur victoire 4-1 à Lorient, Xavier Monferrand.
L'art de faire durer le suspense. Paris a bien cru qu'il pourrait fêter son 12e titre de champion en descendant de l'avion de retour de Bretagne. Mais l'AS Monaco a répondu du tac au tac aux Parisiens plus tard dans la soirée, face à un adversaire direct pour l'Europe. Le PSG a rangé le champagne et le sacre attendra. Ce n'est que partie remise, car l'issue ne fait aucun doute pour Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé à Lorient. Il est au micro d'Amazon Prime.
Clairement, on est venu ici pour gagner, pour continuer sur notre dynamique. Et je pense qu'on a fait un bon match, on a été sérieux. Et on mérite les 3 points. Maintenant, il faut terminer le travail pour être champion au plus vite. Pour moi, ça va être mon premier titre. une grande fierté, j'espère en tout cas. Être champion avec le Paris Saint-Germain, c'est toujours beau, quoi.
Et c'est peut-être un mal pour un bien. Paris aura l'occasion de boucler l'affaire dès samedi devant son public en cas de victoire face au Havre, et ce, peu importe ce que fera son dauphin le lendemain, Monaco, qui prend une sérieuse option sur la Ligue des Champions. 5 points d'avance sur le 3e, Brest, et même 10 sur le 5e, l'OGC Nice. L'affaire semble presque entendue. Reste à savoir qui de Lille ou de Brest décrochera le dernier ticket direct pour la Grande Coupe d'Europe.
Xavier Monferrand, autre match de la 29e journée de Ligue 1. Hier soir, beaucoup plus loin dans le classement, Marseille a fait match nul contre Nice. 2 buts partout.
C'était le journal de Florence Paracuelos. Elisabeth Badinter est l'invitée du grand entretien de France Inter ce matin à 8h20. Cette grande voix du féminisme vient de publier un nouvel essai. Messieurs, encore un effort. Si vous voulez échanger avec elle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. 01 45 24 7000, ça c'est le numéro du standard qui prendra vos questions à partir de 7h. Vous pouvez les poser dès maintenant sur Internet, sur l'application ou le site de France Inter via l'onglet Réagir. Et puis je vous donne aussi l'invité de Léa Salamé à 9h20, c'est l'humoriste Artus, également réalisateur et scénariste du film Un petit truc en plus, qui sort au cinéma la semaine prochaine.
La montée du niveau des mers s'accélère. L'érosion grignote nos côtes. Allons voir sur le terrain.
France Inter, 13h, Jérôme Cadet.
Ce jeudi, le 13-14 est dans le Var, le département de métropole le plus exposé à l'érosion. Nous verrons comment se préparent les communes, les plages privées qui ferment, les habitants qui doivent déménager, les dunes que l'on ne cesse de renforcer.
Le 13-14 de France Inter.
En direct du Lavandou dans le Var, c'est tout à l'heure.
6h41.
France Inter, le 5-7.
On les reçoit 5 sur 5 tous les matins. Voici les chroniqueurs du Carrefour. Bonjour à tous.
Bonjour
Mathieu. Bonjour.
Allez, le tour de table. Gallagher Fenwick, votre histoire du monde.
Le retour du détroit de Magellan sur le devant de la scène maritime mondiale.
L'histoire économique, Emmanuel Dutheil.
Des résultats en trompe-l'œil pour Boeing. Pourquoi donc? Vous restez pour le savoir.
Ah, voilà, capture d'écran Eva Rock.
Quel est le point commun entre Lio, Caroline Loeb, Gilles Kaplan ou encore Mylène Farmer?
Chante mal.
Elle sent pas de voix.
Daniel Morin.
Il y a un L. Il y a un L dans leur nom. Ah si, il y a un L dans leur nom.
Il faut rester aussi.
Ah
oui. Allez.
Daniel Morin.
Oui, alors le week-end dernier avait lieu le marathon de Londres et un homme a démontré qu'on pouvait associer sport et art de vivre tout au long du parcours. Pendant que les uns faisaient des pauses pour boire de l'eau, il s'est arrêté 25 fois pour goûter du vin. Je dis bravo, Tom.
On commence ce carrefour avec votre histoire politique. Clément Pétraud, vous revenez sur une innovation technologique annoncée par Gabriel Attal.
Eh bien oui, après avoir inventé le TGV et le Concorde, l'État invente Albert. Albert, c'est le nom de la toute première intelligence artificielle souveraine qui va révolutionner notre quotidien, nous promet le Premier ministre. Cette intelligence artificielle a été présentée comme un outil miracle capable de débureaucratiser la France. Alors, à quoi pourra bien servir cette intelligence artificielle dans un pays qui a aussi inventé la TVA, le quotient familial et la taxe professionnelle? Eh bien, à répondre aux questions des contribuables qui ne comprennent plus rien au mystère de la fiscalité. Ainsi, Albert accompagnera-t-il les agents de l'administration fiscale pour pré-rédiger des réponses aux courriers envoyés par les usagers dépassés? Mais ce n'est pas tout. Albert permettra aussi aux directions régionales de l'environnement de pré-instruire des dossiers d'aménagement urbain, aux greffiers d'automatiser la retranscription d'audience judiciaire, aux policiers d'automatiser le dépôt de plainte. Bref, si Albert fonctionne aussi bien qu'annoncé, l'État fournira bientôt un service digne des conciergeries des meilleurs hôtels de luxe.
Et cette innovation, elle va réellement simplifier les procédures administratives ?
Pas vraiment. On ne simplifie pas vraiment les procédures administratives. On en délègue la gestion à un algorithme. Alia les tâches rébarbatives et aux agents publics le lien avec nos concitoyens, précise Gabriel Attal. Ainsi, Albert permettra, espère le Premier ministre, aux fonctionnaires de répondre davantage au téléphone. C'est un sujet de préoccupation très sérieux. On sait qu'au troisième trimestre de l'année dernière, seuls 58% des appels téléphoniques à l'administration ont effectivement abouti à un échange avec un agent du service public. En extrapolant ces chiffres, cela signifie que plus de 16 millions d'appels aux services de l'État sont restés sans réponse. Avec Albert, le téléphone qui sonne dans le vide ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir, enfin en théorie.
Vous n'y croyez pas, donc ?
Il est difficile de prédire exactement quels effets aura l'intelligence artificielle sur l'administration à long terme. La digitalisation des services publics a amélioré leur accessibilité, mais elle a aussi laissé pas mal d'usagers sur le bord de la route. Avec l'intelligence artificielle, le véritable défi consiste à ce que le gain de temps et d'efficacité soit réellement rendu aux usagers. Et sur ce sujet,
Albert ne dit rien.
Et Albert n'a pas écrit cette chronique, non. Assurément. Clément Pétraud de la rédaction du Point. Que trouve-t-on à la une de votre hebdomadaire aujourd'hui ?
Femme, homme, la défiance, politique, amour, famille, mode de vie, le fossé se creuse.
Il est 6h44, l'histoire du monde, Gallagher Fenwick. Ce matin, nous empruntons une route maritime mythique.
Le passage de Magellan. Nous sommes à l'extrême sud du continent américain, tout en bas, en pleine Patagonie, au niveau de la Terre de Feu, entre Argentine et Chili. Le détroit qui traverse ces bouts de terre, parfois inhospitaliers, relie l'Atlantique au Pacifique. Il y a 5 siècles, c'est un explorateur portugais qui a découvert ce passage qui porte son nom. Il suscite à nouveau un vif intérêt. La Chine, les États-Unis et d'autres géants du commerce mondial lorgnent sur cette route.
Et pourquoi donc ?
Entre guerre et réchauffement climatique, Mathilde, les routes maritimes habituelles sont fragilisées. Prenez l'exemple du fameux canal de Suez. Il permet de relier l'Europe depuis l'Asie. Il a perdu la moitié de son trafic cette année. Les rebelles houthis qui tirent sur tout ce qui flotte près de leurs côtes en ont fait un passage très dangereux. De l'autre côté de la planète, un autre chenal mythique, le canal de Panama. Lui, c'est le réchauffement climatique qui le pénalise. Le manque de pluie et la sécheresse provoquent des ralentissements du trafic et des engorgements.
Alors dans ce contexte, le détroit de Magellan apparaît comme une solution, mais est-ce qu'il a les capacités d'augmenter son trafic ?
Alors c'est là qu'entre en scène, Mathilde, le jeune président du Chili, Gabriel Boric. Ce trentenaire élu en 2022 a flairé la bonne affaire. Il est originaire de Punta Arenas, la grande ville portuaire sur le passage de Magellan. Son gouvernement va investir 400 millions de dollars, remise à niveau des infrastructures portuaires, achat de grues de chargement, construction de bassins protégés. Le dirigeant chilien lance un plan de modernisation sur 5 ans. Aujourd'hui, les installations dont on parle, elles peuvent péniblement accueillir des navires de taille moyenne. L'objectif, c'est qu'elles puissent permettre l'appareillage demain de vraquiers, de méthaniers, de porte-containers et des gigantesques flottes de pêche chinoises.
Ce regain d'intérêt du détroit de Magellan est donc lié d'abord au fret maritime international, mais pas seulement. Il y a d'autres raisons.
Oui, Mathilde, le vent qui souffle très fort et qui complique la navigation dans le détroit donne des idées à des investisseurs. La zone pourrait devenir un eldorado pour l'hydrogène vert. Des champs d'éoliennes pourraient alimenter la production en grande quantité de cette énergie décarbonée. À l'heure où les Européens se détournent du gaz russe, ça fait réfléchir. Autre attrait de cette zone, sa grande proximité avec l'Antarctique, ce continent blanc du pôle sud, est probablement l'un des prochains théâtres de rivalité entre grandes puissances. Elles vont se disputer ces richesses et les routes qui vont y émerger suite à la fonte de ces glaces.
Le passage de Magellan redevient une grande route commerciale. C'était votre histoire du monde, Gallagher Fenwick. On passe à l'histoire économique. Il est 6h46.
Histoires économiques avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
Emmanuel Duteil, Boeing a présenté hier ses résultats pour le premier trimestre. L'avionneur américain est toujours dans le rouge, mais il réduit ses pertes. 355 millions de dollars contre 425 millions il y a un an.
Oui, vous savez quoi, ça aurait pu être pire. Mais ces résultats s'expliquent assez simplement. Allez, je vais même vous le résumer de façon assez triviale en ce jeudi matin. C'est la cata côté avion grand public. On se souvient tous par exemple de la porte de l'avion d'Alaska Airlines qui s'était arraché en plein vol, mais ça va pas trop mal. Guerre oblige un peu partout dans le monde, côté défense. Vous faites la moyenne des deux et vous obtenez cette performance en trompe-l'œil. C'est vrai qu'on l'oublie parfois, hein, mais vu de Paris, Boeing est encore aujourd'hui un géant de la défense et dans ce secteur, bon, c'est pas mirifique, hein, mais il rencontre quand même moins de déboires.
Mais le gros point faible, c'est donc l'aviation civile.
Une fois de plus, vous avez tout compris et je vais vous raconter une anecdote. Mais il faut, moi je veux revenir régulièrement vous voir quand même. Mais en tout cas, je vais quand même vous raconter une anecdote qui illustre bien le problème. Je la tiens d'un grand patron de l'aérien dont on va taire le nom. Il me racontait récemment qu'un ingénieur de Boeing devait se déplacer en avion. Alors vous allez me dire jusque-là, c'est assez normal quand on bosse chez Boeing. Cet ingénieur s'était assuré qu'il n'allait pas voler sur un 737 Max, les fameux Boeing qui posent problème. Bon là, c'est déjà un poil plus bizarre. Une fois arrivé à l'aéroport, il se rend compte que malheureusement, c'est bien un 737 Max qu'il va devoir prendre. Vous savez quoi ? Il n'est jamais monté dans l'avion. Propos corroboré par un ancien cadre de Boeing, cette fois c'était la semaine dernière, lors d'une audition publique devant le Sénat américain. Selon lui, monter dans un Boeing, c'est prendre un risque. On peut citer un autre propos, cette fois prononcé également en public. Je préfère désormais voyager en Airbus plutôt qu'en Boeing. Ma famille aussi, elle tient à moi. C'est signé Bruno Le Maire, ministre de la République française. Ça se voulait drôle et sans doute un brin chauvin, si je peux dire, mais ça en dit long sur la défiance qui entoure Boeing.
Mais comment l'avionneur va-t-il réagir pour enrayer sa chute ?
Alors déjà, Boeing va lancer un grand ménage dans son équipe de direction. Le patron de l'entreprise part d'ici à la fin de l'année. C'est symbolique, mais le malaise est bien plus profond. Depuis des années, le groupe donne la priorité aux performances financières, mettant de côté le monde de l'ingénierie et de l'industrie. Les dépenses en recherche et développement, c'est-à-dire tout ce qui permet de fabriquer notamment les avions de demain, ont beaucoup baissé. Il faut donc aujourd'hui revoir tout le processus de fabrication pour arrêter les erreurs, et ce n'est pas une mince affaire. C'est pour cela que l'avionneur se prépare à des salves de résultats encore difficiles. Il y a des problèmes un peu partout dans ses programmes. Dans un courrier adressé aux salariés de Boeing, le PDG estime que la baisse des livraisons peut s'avérer difficile pour les clients et les finances, mais la sécurité et la qualité passeront avant toute autre chose, ajoute-t-il. On a envie de dire « enfin », et aussi de dire « c'était peut-être juste la moindre des choses ».
Emmanuel Duteil, vous êtes directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Capture d'écran, il est 6h, 7h, moins 10. Eva Rock, hommage à des femmes ce matin.
Oui, des femmes qui ont marqué les années 80 et qui ont un point commun capillaire.
C'est vrai qu'on était toutes des brunes. Et c'est fou, ça.
Oh là là, c'est tellement vrai. C'est incroyable.
Même Muriel Moreno, le Niagara, même Mylène Farmer, elles étaient brunes au départ. Et donc, les blondes, elles ont perdu l'affaire.
Toute brune, toute éprise de liberté, toutes aiment la provoque et se démarquent par leur force de caractère, comme Lio quand elle chante. La jeune fille connaît parfaitement le sens caché des paroles de ce titre. Philippe Bouvard, lui, a quelques réserves et une bonne dose de mépris.
Lio chante une œuvre forte, drue. J'ai tenu à vous faire faire la connaissance de cette jeune personne qui n'a que 17 ans. Et c'est émouvant de dire l'éclosion d'une nouvelle vedette, en pensant que, notamment si elle change de parolier et de compositeur, elle aura une très belle carrière.
Et le lendemain, c'est un raz-de-marée. Il n'y a pas un gamin qui ne veut pas cette chanson.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Odette Laure, il n'y a qu'un leitmotiv, l'inspiration de l'auteur paraissant aussi courte que la jupe de l'interprète.
Ah, le charme des années 80, ça nous manquait. Alors, dans la famille des moments dont on se serait bien passé, c'est la formidable Caroline Loeb qui se souvient précisément d'une interview avec Thierry Ardisson.
Caroline, dis-moi, tu as eu quand tes premières règles ?
Oh, il n'y a pas longtemps.
Ah bon ?
Il y a 2-3 mois où je n'étais pas très en avance en scolaire. Et toi ?
Quand est-ce que tu as eu tes premières règles ? Enfin, de quoi je me mêle ? C'est quand même incroyable, la vulgarité de la question, j'ai envie de dire. Enfin, l'indécence. Donc, dans ce cas-là, faut sortir par une pirouette.
Ah, on est d'accord, hein.
Bah, carrément d'accord, même. Et la plupart des interviews avec ces chanteuses étaient du même acabit.
Ah, mais alors complètement. Alors, heureusement, ces femmes s'en sortent avec un peu de sarcasme, un peu de cynisme, ou parfois un silence qui en dit long. Elles renversent la situation, surtout grâce à leur humour. Et en fait, c'est assez sidérant de redécouvrir ces séquences, et c'est extrêmement intéressant de réécouter ces titres. Parce que ces femmes n'étaient pas des ingénues à qui on pouvait faire chanter n'importe quoi. Elles affirmaient une forme de militantisme féministe. Elle donnait parfois même une dimension politique à leur titre. Exemple encore avec Lio.
Je l'avais fait parce qu'on était parti de cette idée de dynastie, de la blonde tellement gentille et de la brune tellement méchante. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait dans la chanson, c'est que Le Pen sortait du bois. Et je sais que personne m'a pris au sérieux.
Les brunes, c'est la force de la Méditerranée, quoi. C'est la force de l'ailleurs. On est le sel de la vie, donc on vient pimenter, on vient coloriser, on vient texturiser l'époque.
Lio, Princesse Erika, que vous venez d'entendre, Jeanne Masse, Beuzy, Gilles Kaplan, elle raconte tout avec passion ces années 80, ce moment où elle s'autorise tout. Elle vénérait Catherine Ringer, Madonna, Cyndi Lauper, elle s'habillait comme elle le voulait, parlait souvent de sexe et affichait leur côté provoque, à l'instar de Muriel Moreno du groupe Niagara.
Quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. J'ai un côté vraiment comme ça. Quoi. Faut pas venir me brouter, faut pas venir me casser les couilles. Quoi. Et moi, j'aimais la musique pour emmerder les voisins. Quoi. Ça, je trouvais ça formidable. C'était même, à la limite, une qualité dans la musique. Je savais pas si c'était bien ou si c'était pas bien. À partir du moment où ça faisait chier les voisins, c'est que ça ne pouvait pas être con, quoi, ou nul.
Des arbres se penchent plus fort que tout.
Muriel Moreno, et pourtant il faut voir ou revoir comment pendant les interviews, les journalistes s'adressent quasi systématiquement et uniquement à son acolyte, Daniel Chevenès, plutôt qu'à elle. Reste que ces artistes, femmes, ont réinventé la figure de la chanteuse, n'ont pas accepté cette forme d'invisibilité. Elles ont assumé leur corps et leurs mots, des badass dont il serait judicieux de s'inspirer encore aujourd'hui.
Années 80, les brunes comptent plus pour des prunes, c'est le nom de ce documentaire à voir. C'est demain, c'est pas ce soir, demain sur France 3 à 21h10. Merci Eva Rock. Dans l'équipe du 5-7 aussi, il y a une brune qui ne compte pas pour des prunes. C'est Élise Amchin qui se lève en pleine nuit, elle aussi, pour m'aider à préparer cette émission. Et dans le reste de la team 5-7, ben, il n'y a que des bruns. Oui. Alexandre Chenet à la réalisation.
Il y en a qui n'ont pas de cheveux.
Nasser Madji, oh ça balance, à la rédaction en chef. Amaury Baucher et Victor Benigni pour les invités. Et Thierry Dupin à la programmation musicale.
France Inter, partenaire de Macbeth, en direct dans votre cinéma, ce soir à 20h10. La Comédie Française vous invite à plonger au cœur de l'immense tragédie de Shakespeare, en direct de la salle Richelieu dans votre cinéma. Découvrez la nouvelle production événement portée par la troupe de la Comédie Française sur grand écran. Soyez aux premières loges dans votre cinéma, ce soir à 20h10. Macbeth en direct de la Comédie Française, un événement France Inter.
Il est 7h05.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Marie-Pierre Planchon, on a deux perturbations qui apportent encore des pluies.
Eh oui, une sur le nord-nord-est et une sur le sud-ouest qui va jusqu'aux Pyrénées où il neige à 1100 mètres en remontant vers le centre, en s'étendant jusqu'à la région toulousaine au massif central où il neige également à 1000 mètres d'altitude. Puis dans le même temps, on a une perturbation scandinave qui arrive à rentrer et donner des averses près des côtes de la Manche jusqu'aux frontières belges et allemandes avec de la neige sur les Vosges à 600 mètres. Entre les deux, de la Normandie à l'Île-de-France au Val-de-Loire. Vous allez passer une matinée plutôt ensoleillée et le soleil sera d'ailleurs plus généreux ce matin sur le sud jusqu'aux Alpes à la Corse sous le vent avec encore des petites gelées fréquentes sur l'est, le nord-est et le massif central. Ailleurs, ça monte un petit peu mais on sera quand même en dessous des normales de saison. Il fera en général 3 degrés au nord comme à Lille, 6 dans le sud voire 10 à Perpignan.
Il y en aura davantage de pluie cet après-midi.
Oui, les averses.
Ne jetez pas votre feuille, non.
Oui, je crois que j'avais terminé. Les averses.
Allez, il vous reste 20 secondes, allez-y, voilà, profitez-en.
Les averses vont glisser, seules les régions de l'Île-de-France jusqu'à la Franche-Comté vont rester sous le soleil, comme les Alpes jusqu'à la Méditerranée. Et en fait, les températures vont commencer à remonter, mais on sera quand même 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison.
Marie-Pierre Planchon. Oui, c'est bon, vous pouvez jeter votre feuille. Et c'est à vous, Daniel Morin.
Oui, alors, hier soir, c'était Soirée Ciné, et sur les conseils de Clément Pétraud, le journaliste pervers narcissique, assis à ma droite, je me suis regardé un petit porno australien. Le porno australien, c'est comme tous les pornos, sauf qu'il y a du didgeridoo. Et le didgeridoo, c'est bien, mais assez vite, ça donne la nausée. Du coup, j'ai arrêté le visionnage. Et alors, j'étais en train de finir mon steak de koala, le téléphone sonne. Allô, Daniel, c'est Petro. Oui, Clément, ça va? Oh, ça va, super. Alors, t'en as pensé quoi de « Il y a un monde fou dans mon slip kangourou » Pas mal, j'ai trouvé ça hyper fort. Quand il y a l'évêque de Sydney qui fait du surf à poil poursuivi par deux sirènes nymphomanes, j'ai trouvé que cette métaphore illustrait magnifiquement la résistance de la nature face à la doxa patriarcale de l'Église. Non, Clément, j'ai rien vu de tout ça. Bon, c'est pas grave. T'inquiète, j'ai ce qu'il te faut. Un petit porno amateur suisse-allemand, il y a de l'amour, des vaches, du yodel et de la raclette, c'est réjouissant. Il est sympa, Petro.
Il est bizarre.
Sympa, mais voilà, j'invente rien, il est bizarre. Bon, sinon, je suis un peu triste, là, pour François et Pénélope, les époux Fillon, la Fillon Connection, le couple maudit, la Cour de cassation veut rien savoir, bam, emploi fictif confirmé pour Pénélope. Oh la vache, c'est hard quand même, hein. Si on devait s'attaquer à tous ceux qui ont un emploi fictif, ça ferait du grabuge à Radio France, je peux te le dire. Un carnage. Moi, je croise des gens ici, quand je leur demande ce qu'ils font comme boulot, ils hésitent. Il y en a un la semaine dernière dans l'ascenseur, quand je lui ai demandé à quel étage il allait, il m'a répondu « Je sais pas, deuxième, on verra bien. » Bah, contrario, attention, hein, y en a qui travaillent tout le temps. Eva Rock. Eva, elle passe sa vie à Radio France. Week-end dernier, je passe en bus devant la maison de la radio, je vois Eva. Je descends, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là avec un seau et des genouillères ?»« Eh ben, on m'a dit « Tu fais quoi samedi ?» J'ai dit « Rien. » Du coup, on m'a demandé de nettoyer les vitres du hall de Radio France. 12 mètres de haut. Mais pourquoi les genouillères? C'est des genouillères avant tous pour grimper aux vitres, genre Tom Cruise dans Mission Impossible. Comme quoi, elle fait tout, mais bon, on compte sur elle. Bon, à présent, quelque chose que je ne fais jamais, c'est un petit teaser. Hier, en me baladant online, je suis tombé sur un site qui proposait, je crois être, la montre la plus laide du monde. Du coup, j'ai fait quoi? Ben, je l'ai achetée. Elle est tellement immonde qu'elle en devient merveilleuse. Je dois la recevoir ce week-end, je vous en dis plus lundi. Hein. Je vous dirai pourquoi le kitsch et le mauvais goût, en vrai, c'est la classe. Avec, bien sûr, la photo de la montre en lien sur le site de l'émission.
Avec vos crocs.
Oui, bien sûr. Non, et pire. Pour conclure, depuis cette semaine, au tribunal correctionnel de Paris, un homme est jugé, il est mis en examen pour recel de vol de 150 voitures et association de malfaiteurs. Un homme aux multiples talents, puisqu'il est aussi mis en examen pour complicité de meurtre en bande organisée. Alors, ça commence à faire lourd, mais bon, c'est pas foufou, sauf que le gars en question, c'est un flic. Le flic prénommé Nicolas avait un surnom.
Non.
Son surnom, c'est Nicole Ripoux. Nicole Ripoux, je vous dis, tout le contraire de notre voisin. Hein.
Ouais.
Notre voisin, c'est Nicole, apôtre du service public, le missionnaire du 7-10, l'évangéliste de l'aurore, un homme bon, un homme vertueux qui, malgré le succès et les brouettes de pognon qu'il reçoit chaque mois, a su rester un homme simple et généreux, entouré d'Aline et Sonia, ses deux fidèles grenouilles de bénitier, qu'il surnomme Sister Act et Sœur Sourire. Saint Nico, dont la foule ourbie et torbie attend la divine parole et sa célèbre phrase qui sonne comme le début de la messe,